La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Bonsoir, chers auditrices. Aujourd'hui, on est allé au palais de Tokyo avec une amie et en arrivant, on tombe nez à nez avec une belle ribambelle de voitures de police et de gros camions de CRS. Quelle belle surprise! Puis en rentrant, deux CRS qui passaient vite fait se soulager aux toilettes du musée. Donc bon, on est un peu intrigués, on demande au mec qui nous vend nos billets et puis il nous éclaire. Xi Jinping, l'actuel président de la Chine, est en visite de notre cher président et il fait une petite balade bucolique dans le 16e et il va donc passer devant le palais de Tokyo. Tout s'explique. Apparemment, Macron n'a toujours pas vraiment fait un cas de conscience des méthodes agressives qu'emploie le gouvernement que Xi Jinping pour la réunification pacifique, entre guillemets bien sûr, entre la Chine et Taïwan. Ce pacifisme était du moins officiellement prévu après la rencontre historique entre les dirigeants des deux pays en 2015. Et le génocide des Ouïghours, bah pareil, pas de cas de conscience apparemment. Enfin si, autant pour moi. Macron dit vouloir évoquer, je cite, les désaccords plutôt derrière des portes closes. Dommage, j'aurais bien aimé entendre les « c'est pas trop sympa ce que vous faites, non ?»« Mais si, on est très gentils. » »« Ah ok, ouf, parce qu'en même temps on a besoin de vous pour lutter contre la Russie et aussi de vos made in China. Et en même temps on n'en veut pas trop parce que sinon on sera désindustrialisé. Puis comme on vient de lancer France Travail, bah c'est bête. C'est compliqué la politique quand même. Mais comme aujourd'hui je suis allée voir une expo, j'ai pas eu le temps de creuser beaucoup plus. Je vous encourage donc à le faire à ma place. Tout comme le gouvernement qui préfère plutôt s'occuper de sauver le système capitaliste de la menace climatique et nous laisse gérer nous-mêmes la décroissance et l'accueil des mineurs sans papier pour citer que deux exemples. Sauf que, d'une part, je vais pas vous mettre des bâtons dans les roues pour les recherches que je vous lègue, et que d'autre part, le gouvernement préfère dire par exemple que les déchets nucléaires c'est pas vraiment dangereux, plutôt de dire qu'on sait pas trop en fait, on est un peu dépassé par la situation, mais on cherche vraiment, on fait notre mieux. Enfin, supposer que c'est le cas, qu'ils font des recherches et qu'ils font au mieux. Bref, c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis là, mais tout comme on est censé prévenir en théorie son lecteur ou sa lectrice en recherche scientifique et universitaire quand on n'a pas la réponse, ou donner les différentes hypothèses, présenter les pistes pour de prochaines recherches, peut-être qu'on aurait moins de théories de complot ou de fake news si on était vraiment transparent en politique et qu'on travaille au gouvernement. Après, ce n'est que mon humble impression. Et comme dit, je suis allée voir une expo aujourd'hui et j'ai donc pas eu le temps d'y réfléchir davantage. Je vous invite donc également à reprendre mon travail sur ce point. Bon, et là, ça fait 3 fois que je vous parle de cette expo sans vous dire ce que c'est, mais comme j'ai assez parlé de polémique aujourd'hui et que l'heure du sommaire s'annonce, je vous en parlerai la prochaine fois. Face à la commission d'enquête sur l'AESE, un comité de vigilance des enfants placés a été créé. Achraf Amer et Chérine, bénévoles du comité, sont avec nous pour en parler. Ensuite, nous accueillerons Laurence Aziza pour le festival Sacré Sainte. Vous êtes bien sur la matinale de Radio Campus Paris, il est 19h04. Et entre interview, Zoom, chronique et musique, nous sommes ensemble pour une heure. Et tout de suite, c'est l'heure de notre interview. Bonsoir Manon, bonsoir Sylvie, je vous passe tout de suite le micro.
Bonsoir. Alors, donc le 13 mars dernier, les députés socialistes annoncent le lancement d'une commission d'enquête parlementaire sur le dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Les conditions de travail extrêmement précaires, le manque de personnel et des structures inadaptées à l'accueil des jeunes au parcours traumatique sont les principaux dysfonctionnements pointés par les députés socialistes. À la suite de cette annonce, près de 200 anciens enfants placés venant de toutes les régions de France et de tous âges se sont unis pour former le comité de vigilance des enfants placés. Ce collectif vise à faire entendre leur voix et à obtenir des mesures concrètes pour améliorer le système de protection de l'enfance. Et pour parler plus en détail de ce sujet, ce soir nous recevons donc Achraf et Chérine, bénévoles du comité de vigilance des enfants placés. Bonsoir.
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 Sylvie.
Est-ce que peut-être vous pourriez nous expliquer ce que c'est concrètement un enfant placé et ce que c'est l'aide sociale à l'enfance ?
Oui, carrément. Je ne sais pas si vous voulez d'abord qu'on parle du comité ou... Après, ok. Donc, faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a énormément de, il y a plus de 300 000 enfants qui sont du coup accompagnés par une protection de l'enfance, dont énormément d'enfants placés. Qu'est-ce qu'un enfant placé ? C'est un enfant du coup qui a des parents qui ne peuvent pas, accomplir leur rôle de parents et qui du coup sont placés dans des structures, que ce soit dans des foyers ou au sein de familles d'accueil. Et du coup, donc, ils sont accompagnés par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui est donc un système qui normalement est visé à protéger les enfants. Et nous, du coup, par le biais du comité, on cible du coup les dysfonctionnements de ce système qu'il faut résoudre rapidement.
Dysfonctionnements qui sont du coup, si vous pouvez nous en rappeler peut-être 1, 2, 3, 4, 10.
Waouh, là il faudrait une conférence d'1h30.
Très rapidement.
Bah, rapidement, on pourrait déjà pointer le fait que la loi Taquet 2022 devait faire arrêter les départs en sortie sèche à 18 ans des jeunes majeurs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a toujours des départs secs. Il y avait aussi une possibilité de droit au retour après la sortie de l'aide sociale à l'enfance, qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, aujourd'hui. Ça, c'est un des premiers dysfonctionnements. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Il y a le fait qu'il y ait des changements systématiques de familles d'accueil ou de structures d'accueil des jeunes. Et là-dessus pour une continuité saine et puis pour que l'enfant puisse se développer normalement, en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en tout cas pas de cette façon-là. Voilà, pour en citer que deux, après on pourrait en citer plein. Mais...
Bien sûr.
Pour en citer plein d'autres, ouais, je pense aussi notamment aux défaillances affectives. Aujourd'hui, il faut savoir que quand un enfant se sent bien dans une famille d'accueil, la plupart du temps, si la famille d'accueil manifeste trop d'affection, souvent on la change aussi. Donc ça rejoint le point d'Ashraf quand il disait que du coup, les enfants sont un peu portés à droite, à gauche et ont du mal à se créer des repères sains. Des repères fixes. Et également aussi l'accompagnement qui est aujourd'hui conditionnel, même surtout après la majorité. Aujourd'hui, il faut faire une lettre pour avoir un accompagnement provisoire jeune majeur pour pouvoir être encore accompagné jusqu'à au plus tard 21 ans, ce qui est un très gros dysfonctionnement, puisqu'aujourd'hui, la majorité des jeunes sont hébergés chez leurs parents jusqu'à plus de. Il me semble que c'est 25 ou 27 ans la moyenne pour prendre son premier logement, son indépendance.
Ouais, je crois qu'en moyenne, c'est 25.
25 pour moi. Je crois 25 ou 27, et aujourd'hui on pousse les jeunes au maximum, au plus tard, s'ils ont cet accompagnement provisoire jeune majeur, à être accompagnés jusqu'à maximum 21 ans, et c'est un très très gros problème aujourd'hui.
Et inadapté.
Et peut-être rajouter un truc sur les APJM, on va parler en cycle vu que là on a commencé à parler de l'accueil provisoire jeune majeur, mais les départements font quelque chose qui sort du cadre légal en modifiant le terme de l'APJM, en l'appelant contrat jeune majeur. Oui. Ce qui vient poser une responsabilité non plus sur le département qui est censé accueillir et accompagner le jeune majeur, mais sur le jeune majeur en lui-même aussi, en disant si tu ne respectes pas ta part du contrat, on te sortira de l'aide sociale à l'enfance et de ton accompagnement au-delà de ta majorité. Donc voilà, et pour terminer, je crois que si on observe bien, à 18, 19, 20 ans, on est encore en train de faire des études. Mais à 20 ans, on est encore en train de faire des études, mais qu'on sort de l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce qui se passe ? Quel accompagnement financier, quel accompagnement émotionnel, etc. pour la sortie.
Et là, justement, vous parlez beaucoup de l'accompagnement lorsque l'enfant devient majeur. Mmh. Est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur quel impact a la loi Asile et Migration qui a été votée récemment en janvier 2024 sur, du coup, les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance de nationalité étrangère ? Quelle est la différence avec un enfant national, par exemple ?
Alors, là, le truc, c'est que en parler d'impact aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que la loi, elle date de janvier, que les décrets d'application ne sont pas forcément tombés. Et donc là, voilà. Ce qu'on peut dire sur la loi immigration, et on va rester dans le simple, mais ce qui est dit, c'est qu'il y a un amendement à l'intérieur de cette loi immigration qui a passé le Conseil d'État, qui vient faire une séparation entre les enfants nationaux, français donc, et les enfants immigrés et ou réfugiés. Et donc là, on se retrouve devant vraiment un projet d'extrême droite en fait, qui vient faire une différence
entre une préférence nationale
carrément. Vraiment, c'est une vraie problématique. Alors, à voir comment ça va être adapté, etc. Mais même dans l'idée, dans le sens de cet amendement-là, c'est catastrophique.
C'est catastrophique, et puis ça prouve du coup qu'il y a des inégalités même au sein même de l'accompagnement pour les jeunes. En fonction de ton parcours, en fonction de ta provenance, il y a des conditions, et ce qui est juste inadmissible pour nous aujourd'hui. Tout jeune mériterait d'avoir le même accompagnement, peu importe d'où il vient, peu importe son parcours, peu importe son passé. Ce qui nous offusque aussi aujourd'hui, c'est de voir par le biais de cet amendement qu'un jeune qui aura du coup une OQTF, qui aura connu une OQTF dans son parcours, n'aura même pas la possibilité d'avoir un APJM après. après, par la suite, et c'est vraiment lamentable. C'est juste strictement, purement un projet d'extrême droite. Je m'arrêterai là sur ce sujet-là, mais vraiment, ça me met hors de moi.
C'est surtout qu'en plus, l'obligation de quitter le territoire, elle est quasiment systématique dans le... Enfin, la majorité des mineurs qui sont étrangers, qui se retrouvent avec une OQTF, hein, c'est là dans la totalité des cas, donc cette loi va faire que renforcer.
Et pour revenir un petit peu sur la commission d'enquête parlementaire, du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les objectifs et du coup, parallèlement, pourquoi avoir créé un comité de vigilance des enfants placés et quel est son rôle vis-à-vis de cette commission d'enquête?
Ok, moi je vais surtout parler de pourquoi on a créé le comité. Le comité, du coup, il a été créé par l'association Les Oubliés de la République, avec du coup pour présidente Elina et vice-président Lies, du coup. Ils ont appelé à rassembler du coup des jeunes qui veulent porter leur voix. Et pourquoi créer ce comité aussi, c'est que cette commission d'enquête ne doit pas se faire du coup sans les jeunes placés, mais avec eux, car qui d'autre que les jeunes placés, du coup, pour parler mieux de la protection de l'enfance aujourd'hui et des dysfonctionnements. Donc, comme vous l'avez dit dans l'introduction, on est à plus de 200 membres aujourd'hui dans ce comité. Des membres qui font aussi partie d'associations déjà d'entraide, comme Repair, notamment. Moi, je fais partie de Repair aujourd'hui, Repair 75. Et l'objectif, du coup, c'est de s'assurer vraiment, de suivre tout ce qui se passe dans cette commission d'enquête et de s'assurer vraiment que tout soit bien fait et surtout qu'on soit aussi pris en compte, que notre parole soit prise en compte et de valoriser surtout aussi tous les parcours différents qu'il y a au sein du comité. Parce qu'il y a des jeunes, notamment je pense encore aux jeunes qui ont des parcours migratoires, qui se sentent pas forcément légitimes de parler et qui aujourd'hui par le biais de ce comité peuvent laisser entendre leur voix. Et pour nous c'est hyper important de voir la diversité des profils qu'il y a au sein du comité et de montrer qu'un jeune ayant un parcours en protection de l'enfance a vraiment un parcours unique, peu importe sa situation, et qu'il y a vraiment une diversité incroyable.
On va peut-être rajouter deux choses. Alors en effet, ce comité il a été créé pour présenter les dysfonctionnements d'avant, les dysfonctionnements de maintenant, et surtout permettre à ce que derrière les futurs qui seront placés, hein, les futurs enfants qui seront placés à l'aide sociale à l'enfance, ne subissent pas ce que nous on a pu subir à un moment donné. Ça c'est la première chose. Et moi ce que je trouve qui est bien avec ce comité, c'est qu'il est en train de créer un précédent de personnes. Qui ont vécu les dysfonctionnements et qui du coup font porter leur propre voix. Et dans le cadre d'une commission d'enquête, moi je trouve ça incroyable. Et peut-être que demain on aura d'autres commissions d'enquête, je sais pas, sur d'autres types de métiers, je sais pas, les infirmières qui viendront elles-mêmes parler des dysfonctionnements de l'hôpital public par exemple. Donc pour moi, il y a ce truc-là de... On est en train de créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est quelque chose de grand et c'est déjà quelque chose de fort quand on est tous ensemble et qu'on communique tous ensemble. En fait, je nous sens fort. Je nous sens très fort.
Ouais. Et pour compléter ce que dit Ashraf, du coup, l'objectif aussi de ce comité, c'est pas uniquement c'est pas uniquement de parler que des enfants placés, mais aussi de parler des travailleurs sociaux et de parler vraiment de du dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance dans toute sa globalité. Et du coup, on est suivi notamment sur les réseaux sociaux par plein de travailleurs sociaux, etc., qui comprennent nos voix et qui sont enfin contents qu'il y ait enfin cette commission d'enquête qui est historique aujourd'hui. Hein. C'est la première fois, du coup, qu'on a une commission d'enquête pour les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux. Et on est enfin... comment dire, on se sent enfin premièrement écouté, mais on sera vraiment satisfait uniquement quand on verra la finalité de la commission d'enquête, bien évidemment.
Et là donc vous abordez le fait que vous voulez aussi ramener d'autres acteurs aussi à ce comité de vigilance. Est-ce que vous prévoyez par exemple, je sais pas, de faire du plaidoyer auprès d'être députés, par exemple les députés socialistes qui ont été à l'initiative de cette commission d'enquête, quelles actions peut-être futures même vous envisagez?
Bien sûr. Alors, le truc, c'est que le plaidoyer auprès des partenaires, enfin pas des partenaires, mais en tout cas des décideurs politiques, il est déjà fait depuis longtemps. Parce que les dysfonctionnements, on les connaît en réalité. Les solutions, on les connaît aussi. On les a, hein. On a les solutions. Il n'y a pas de manque par rapport à ça. Cette commission d'enquête, elle ne viendra pas donner de nouvelles solutions. Nous, notre rôle dans ce comité, dans cette commission, ça va être d'établir bien très clairement quelles sont les solutions qui vont être posées, et nous les valider en un sens, hein, et le rapport, parce qu'une commission d'enquête n'a pas de pouvoir coercitif, il faut le rappeler. Hein. Mm. Et par conséquent, bah, en fait, y aura un rapport à la fin. Ce rapport devra être assez clair et détaillé pour que les députés ensuite puissent s'en servir pour proposer des lois.
Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est des actions. On a marre juste d'entendre des paroles. On veut vraiment des actions concrètes. On veut que cette commission d'enquête, elle aboutisse à des actions pour vraiment rétablir un système stable, un système sain, un système avec de la sécurité. Voilà, on veut de l'action.
Merci beaucoup Achraf et Chérine. Vous restez avec nous pour parler du comité de vigilance des enfants placés créé en réaction des dysfonctionnements de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Mais avant, autorisons-nous une courte musicale avec Je me barre de Kenny Arcana.
La matinale de 19h.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre. Vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part. Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. La nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer haute part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Crois en mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fous depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile.
C'était Je me barre de Kenny Arcana.
La matinale de 19h.
Il est 19h20, nous sommes toujours avec Achraf et Chérine, bénévoles du comité de vigilance des enfants placés, créé en réaction des dysfonctionnements de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et nous étions en train de parler, il me semble, de la nécessité de plus d'action dans ce cadre-là. Et je vous repasse tout de suite la parole, Manon et Sylvie.
Je crois que Achraf voulait parler du syndicat de la magistrature. On t'écoute à ce sujet.
Ouais, on a aujourd'hui le syndicat de la magistrature qui vient de sortir un rapport qui est complètement édifiant. Hein. Je pense que ça serait intéressant que vos auditeurs aillent le voir parce qu'il est dit beaucoup de choses à l'intérieur très importantes, dont par exemple 3335 mesures de placement non exécutées. Donc, ce qui veut dire, et quand on dit mesures de placement, on ne parle pas de nombre d'enfants là, on parle de mesures de placement. D'accord. Okay, oui. Donc non exécutés, ça veut dire qu'ils sont toujours au foyer familial, oui. Et donc qui sont en danger.
Oui. Et,
vraiment, je fais une
donc
courte...
Donc c'est énorme.
C'est énorme, mais surtout que, encore une fois, je précise, hein, 3335, on ne parle pas du nombre d'enfants. On parle de mesures. Et donc, ce qui veut dire très concrètement que là-dedans, il y a des fratries, et qu'on peut... alors, je ne connais pas exactement le chiffre exact du nombre d'enfants, mais... Oui. Mais imaginons qu'à l'intérieur, il y ait, une dizaine de fratries de 4 enfants. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un des premiers chiffres. On observe aussi qu'il y a un manque de greffiers, donc qu'à l'intérieur des jugements qui sont prononcés, il n'y a pas de greffiers. Et donc, ce qui rend les mesures judiciaires, donc le placement, ouais. Caduques.
Okay.
Donc on pourrait faire sauter les placements sur ça. Et ça, c'est vraiment catastrophique. On a des départements qui comptent presque 400 enfants non placés alors qu'ils devraient l'être. Donc ce sont encore une fois des enfants qui sont en danger, hein, parfois qui subissent des agressions sexuelles, qui subissent des violences physiques, morales, tous les jours. Donc, et puis parfois, ça finit sur des suicides.
Et là, du coup, tu mentionnais un petit peu aussi les inégalités territoriales qui existent sur le territoire français quant au dysfonctionnement de l'ASE. Est-ce que peut-être vous sauriez nous dire quels sont les départements les plus affectés par ces dysfonctionnements, vu qu'il y a une inégale répartition aussi du budget qui est alloué à ces départements, comment...
Compliqué. C'est une question très compliquée parce que accuser seulement certains départements, je crois que tous les départements aujourd'hui doivent se remettre en question. Mmh. Vraiment, et c'est pas pour esquiver la question, on a des problématiques partout sur le territoire. Il y a une carte dans le rapport du syndicat de la magistrature, il y a une carte qui est édifiante en fait dans tous les départements, quasi tous, quasi 100%, il y a des mesures de placement non exécutées. Quasi tous. Donc évidemment, il y en a où il y en a 395, d'autres où il y en a 100, il y en a 200. Mais à partir de combien on se dit que c'est déjà grave?
Et bien, s'il n'y a pas de contrôle en plus du coup du travail des départements sur ces questions-là, ils ne sont pas contrôlés. En tout cas, on ne leur impose pas une utilisation de ce budget. Donc du coup...
ils sont maîtres de leur budget, puisque l'aide sociale à l'enfance est gérée par les départements. Donc c'est à eux de gérer leur budget qui leur est alloué. Et donc non, il n'y aura pas plus de contrôle que ça, mais ça c'est quelque chose qu'on demande aussi, qu'il y ait beaucoup plus de contrôle. Pour être très honnête et très franc, moi je suis pour une recentralisation de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on sait que ça peut marcher. Donc du coup, je pense qu'à terme, on va arriver à ça, pour qu'on puisse aussi désigner des responsables. Parce que là, ce qui se passe, c'est quand on accuse les départements, ils renvoient à l'État en disant « ouais, mais on n'a pas assez de budget ». Et puis quand on accuse l'État, ils disent « oui, mais nous, on n'est pas responsables, c'est les départements ».
Oui, ils se renvoient la balle.
C'est catastrophique. C'est une catastrophe.
Et selon vous, justement, pour approfondir un peu cette voie-là, quelles seraient en fait les solutions, les recommandations que vous portez depuis votre comité de vigilance pour mettre fin à ces défaillances?
Elles sont multiples, hein, les solutions. Et puis j'ai envie de dire aussi, elles sont... Oula, j'entends plus. Ah, c'est bon. Elles sont multiples, les solutions, et j'ai envie de dire, elles sont un peu propres aussi à chaque membre du comité aussi. Les solutions qu'Ashraf porterait ne seraient pas forcément les mêmes qu'un autre membre du comité, mais on est tous en tout cas clairs sur le fait qu'il y a énormément de dysfonctionnements dans le système et qu'il faut les résoudre tous. L'une des solutions, Ashraf parlait du contrôle, déjà mettre en place des contrôles systématiques, déjà ça, il faut vraiment le mettre en place. S'assurer vraiment de la sécurité des jeunes placés, s'assurer vraiment du soutien aussi émotionnel. Tu parlais aussi de soutien émotionnel, ça c'est une chose qui manque cruellement aussi aujourd'hui. L'accompagnement provisoire jeune majeur pour tous jusqu'à 25 ans, c'est un des combats de repères notamment, et aussi du comité de vigilance. Que dire, qu'il n'y ait surtout plus de morts aussi à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, les noms sont trop nombreux, hein, je pourrais pas tous les citer, hein, mais je pense à Jess, je pense à Lily, je pense à Nour, je pense à énormément de jeunes aujourd'hui qui nous ont quittés à cause de l'aide sociale à l'enfance. Quelle autre solution qu'on aimerait aussi apporter? Question de formation, bien sûr.
Il y a des questions
aussi,
de formation, notamment sur les questions LGBT. Mm. Moi, je crois qu'il y a un manque cruel de formation. Être un enfant placé, c'est déjà compliqué. Mm. C'est déjà être un pan de la société vraiment mis de côté, mis à part, invisibilisé. Les personnes LGBT de la même façon, les enfants, les jeunes qui sont usagers de drogue, etc. Enfin, on a des questions là-dessus vraiment qui sont pour moi essentielles, mais au même, c'est pas que les structures, parce qu'on peut observer aussi dans les familles d'accueil quelle est la formation pour sur les questions LGBT, sur les questions des personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou morale, hein, ou psychique, hein. Je crois que c'est important de le préciser qu'il y a une question de formation qui permet pas, en fait, sur le long terme d'avoir un accompagnement solide, et ça, c'est catastrophique en réalité.
Oui, une autre chose aussi qui vraiment nous tient énormément à cœur, et à tous les membres du comité du violence aussi, c'est vraiment de revaloriser la parole de l'enfant, de l'écouter aussi, que l'enfant soit enfin écouté et qu'il ait totalement sa place aussi dans son parcours d'aide sociale à l'enfance, parce qu'aujourd'hui énormément d'enfants ne se sont pas sentis écoutés forcément dans leur parcours. Ils se sont sentis drivés un peu avec la parole de l'adulte en face, parce que l'adulte a toujours raison, mais pourquoi ne pas aussi prendre en compte les mots des enfants, leur voix, tout simplement aussi dans leur parcours.
Et peut-être ajouter quelque chose, et ça va paraître stupide, mais le respect des lois, en fait.
Le respect des lois.
Parce que là, donc la loi Taquet prévoyait l'interdiction des placements hôteliers, donc pour les mineurs de moins de 16 ans.
Qui était en 2022, du coup.
Qui était en 2022, la loi Taquet, ouais. Exactement. En 2024, le décret d'application a été sorti par Sarah El Haïry. Trop tard, on avait eu une mort, Lily, juste avant, qui s'est suicidée dans un hôtel. Et là, on vient de s'apercevoir, enfin on s'aperçoit pas du tout parce qu'on le savait, mais là, on a un article qui sort où on voit qu'il y a des enfants qui sont placés dans un hôtel dans le Nord à partir de 8 ans.
Ouais, entre 8 et 13 ans, c'est
lamentable. Entre 8 et 13 ans. Donc, et là, on pourrait parler de questions de sécurité. Quelle sécurité on offre à des enfants de 8 ans quand ils sont tout seuls dans des hôtels? Je suis désolé, mais le risque, il est majeur. Parce que le risque d'agression sexuelle, d'agression physique, parce que là, on parle d'enfants. Comment l'enfant peut subvenir à ses besoins? Encore une fois, il y a un besoin émotionnel, surtout quand on a été retiré de sa famille. Au-delà du fait que, bien sûr, s'il a été retiré, c'est pas pour rien.
Et du coup, il nous reste quelques petites secondes, minutes, pour parler du rassemblement de demain.
Ouais.
Si vous voulez nous en dire un petit mot.
Alors du coup, nous demain, on organise le premier grand rassemblement du coup avec notre comité de vigilance en commémoration pour les morts à l'ASE aujourd'hui. Donc comme je vous dis, les noms sont trop nombreux, trop d'enfants aujourd'hui qui sont morts à l'aide sociale à l'enfance. On vous appelle tous à vous rejoindre à la place Jacques Bainville, métro Solferino, ligne 12, à 18h. Oui, demain, excuse-moi, demain 7 mai.
Demain 18h.
Demain 7 mai 18h. On vous invite à tous être nombreux, que vous ayez été placés ou non, que vous travaillez dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance ou non. Forcément, cette cause doit toucher tout le monde, cette cause doit parler à tout le monde, parce que du coup, les enfants, c'est la population de demain. Et il faut prendre soin de ces enfants, peu importe leur provenance, peu importe leur parcours, et vraiment porter notre voix et montrer qu'on est là, que notre comité de vigilance est présent et qu'on lâchera rien pour avoir des vrais résultats suite à cette commission d'enquête.
Ouais, pour conclure, les enfants placés sont pas les enfants placés. Les enfants placés sont les enfants de tout le monde.
De toute la nation.
Qui plus est, ils sont aussi les enfants de la nation. Mmh. Chaque personne qui paye des impôts aujourd'hui, en fait, participe à la... participe à l'accompagnement de ces enfants-là. Donc oui, il faut qu'un maximum de personnes soient là. On invite évidemment les étudiants à nous rejoindre. Moi, je suis présent sur leur rassemblement parce que je pense qu'il y a des questions sur les étudiants qui sont importantes, mais les enfants placés font aussi des études. Donc on a besoin d'un maximum de personnes. Plus on sera nombreux et plus on sera écoutés. En fait, c'est le nombre là qui fera la force.
Oui, bien sûr.
Puis on est une radio, étudiante, donc on espère que nos auditeurs seront présents.
Et est-ce que du coup, dernière petite question, vous pourrez compter sur la communauté d'entraide Repère? Donc je crois que c'est toi, Chérif, qui en fait partie,
ouais.
Chérine.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est et comment vous travaillez ensemble au quotidien et voilà.
En deux mots, parce qu'on a encore une minute.
Alors, Repères, du coup, c'est une association d'entraide par les anciens jeunes de l'ASE, pour les anciens jeunes de l'ASE. Aujourd'hui, on n'est déployé pas qu'à Paris. Hein. Moi, je suis bénévole, du coup, chez Repères 75, mais on est présent dans plusieurs départements de la France. L'objectif, vraiment, c'est de maintenir, du coup, le lien social avec les jeunes. Il y a aussi également un département pour le plaidoyer. On a fréquemment des points avec l'Assemblée nationale, mais du coup, qui ne mènent pas encore à des actions concrètes, et nous on veut des actions, d'où le fait qu'on soit aussi membre du comité de vigilance. L'objectif aussi, c'est de permettre à des jeunes qui ont des difficultés aussi pour tout ce qui est administratif d'être accompagnés. On a notamment une membre à Repères qui les accompagne, et normalement ça devrait être fait par l'aide sociale à l'enfance, et aujourd'hui c'est une des membres qui aide énormément à tout ce qui est administratif, notamment pour la population des jeunes qui sont issus du parcours migratoire. Repères aussi, c'est des moments d'échange, des moments de convivialité, c'est la poursuite en fait du parcours en protection de l'enfance qui n'est pas faite aujourd'hui par l'aide sociale à l'enfance.
Et tout le monde peut être bénévole du coup à Repères.
Tout le monde est la bienvenue à Repères. Tout le monde est la bienvenue à Repères, mais surtout tout le monde est la bienvenue demain, 7 mai,
bien sûr, surtout demain,
pour une place Jacques Bainville pour le rassemblement, et bien évidemment suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, Vigilance ASE, et pour Repères du coup Repères 75. Mais voilà, n'hésitez pas à venir demain, à en parler autour de vous, et vraiment on compte sur vous et on sera là.
Et merci beaucoup,
18h.
Achraf et Chérine, d'être venues à la matinale.
Oui, merci beaucoup, merci. Manon et merci. Sylvie aussi d'avoir mené cette interview. Et Achraf et Chérine, je rappelle donc que vous êtes bénévoles du comité de vigilance des enfants placés, créé en réaction des dysfonctionnements de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et avant d'accueillir Lamine pour sa chronique, écoutons Scorpion de Smash.
Scorpion, skin scorched, brings thirst, seeking a water source. A come upon by chance or predestined circumstance. A pool of water, not much larger than 13 man's hands. Should partake of H2O at last. Quenched and satisfied, the scorpion stayed on a rock by the waterside, sunbathing, when a shadow arrives. The shade was made when a free Mustang came to partake of the pool the last rain made. Partake of the pool the last rain made. But still to this day, it's so hard to say why the scorpion didn't just go on about his way. You dig, a scorpion with quenched thirst is a scorpion just the same. And it killed the Mustang, saying, I am a scorpion, so I must sting. Thank you.
If the land is free, it's more brave to let it be. But if you kill for sport, you bring terror most naturally. Why? The scorpion not just go on about his way. A scorpion with quench thirst is a scorpion just the same. Can it kill that Mustang stand? The scorpion so fine.
C'était Scorpion de Smadj.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Il est 19h37 et c'est pas encore l'heure du Zoom, mais nous en parlons, nous y venons tout de suite. Avant, nous accueillons Lamine qui est arrivée pour sa chronique. Entre temps, bonsoir Lamine.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui en direct. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de deux grands chocs footballistiques. Cette semaine, nous allons parler de la prestigieuse des Coupes d'Europe, alias la Ligue des Champions. En effet, la première rencontre des demi-finales de la Ligue des Champions, qui va opposer ce mardi le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund au Parc des Princes. En effet, la question qu'on se pose tout le monde, est-ce que le Paris Saint-Germain, cette année, va soulever la Ligue des Champions le 1er juin prochain sur la pelouse de Wembley, ce qu'on souhaite, bien sûr. C'est un rêve ultime du club de la capitale, qui passera impérativement par une autre remontada, j'espère, demain au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund. Le PSG va devoir réagir et marquer au moins 2 buts pour se qualifier. Les Parisiens sont calmes, malgré le handicap d'un but à remonter. Preuve à l'appui, c'est les phrases confiantes du technicien espagnol du PSG, Luis Enrique, qui dit « On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français ». Ou bien il rétroque « On va aller chercher cette finale car on n'a plus rien à perdre ». Même son de cloche pour le capitaine Kylian Mbappé, qui dit que la pression, on est conscient, mais le groupe est extrêmement serein, on est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et se qualifier. J'espère. En tout cas, tous les supporters parisiens croient à un potentiel victoire pour passer en finale et il y a tout pour que le PSG soulève enfin cette coupe aux grandes oreilles. De l'autre côté, et si le PSG est déterminé à se qualifier pour la finale, le Borussia Dortmund de son côté est de moins tout autant et compte bien disputer la finale de Wembley le 1er juin avec un supplément d'âme supplémentaire. En effet, les joueurs se sont engagés pour offrir la victoire à Marco Reus, leur capitaine de longue date âgé de 34 ans qui va quitter le club en fin de saison après bien sûr 12 années de service loyal. On passe à la deuxième rencontre des demi-finales de la Ligue des Champions qui va opposer mercredi le Bayern Munich et le Real Madrid au stade mythique du Santiago Bernabéu. Ces deux géants du football européen partagent l'objectif de rejoindre Wembley pour la finale du 1er juin. Le Real Madrid, qui est boosté par son 36e titre de champion d'Espagne de son histoire en Liga, remporté ce samedi. Les Merengues, qui sont toujours à la recherche des titres et à pulvériser les records, cherchent à décrocher leur 15e étoile et fêter un doublé historique avec leur public. Le coach dira qu'il y a encore 90 minutes et on pourra jouer une autre finale, en insistant sur la dangerosité du Bayern Munich. De son côté, le Bayern Munich qui était dépossédé du titre de champion d'Allemagne pour la première fois depuis 2013 par Leverkusen, a fait de la C1 sa priorité pour sauver sa saison. Le match paraît difficile pour les Munichois, mais le coach Thomas Tuchel reste confiant et en déclarant que c'est possible de renverser le Real Madrid au stade mythique de Santiago Bernabéu. Il dira « C'est l'un des endroits les plus compliqués pour gagner un match, mais le but est très clair. On devrait être courageux, plein de confiance et clinique. » Enfin, Le spectacle sera assuré sur le terrain pour les deux confrontations et les amoureux du ballon rond pourront se régaler en regardant ces deux grandes confrontations et que le meilleur gagne.
Merci beaucoup Lamine.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et tout de suite donc place au Zoom. Bonsoir Elios.
Bonsoir. Alors Laurence, est-ce que vous m'entendez ?
Donc nous parlons avec Laurence Aziza ce soir qui va nous parler du festival Sacré Sound. Et je te repasse la parole tout de suite.
Pas de souci. Bonjour Laurence, est-ce que
bonjour.
Vous m'entendez ?
Bonjour. Et vous m'entendez ? Je vous entends très bien.
Eh bien, super. Alors, on va parler de votre festival Sacré Sound Festival, qui a lieu donc du 2 au 18 mai à Paris, et qui met en avant la musique traditionnelle. Donc, comment vous est venue l'idée de ce festival ? Qu'est-ce que c'est un peu la genèse de ce projet ?
Alors, c'est pas la musique traditionnelle, c'est les musiques spirituelles et les musiques actuelles, en fait. C'est ça l'histoire du croisement. C'est venu, comment c'est venu ? Ah, bonne question. En fait, souvent les idées, elles viennent d'un problème, on va dire. Et donc, il était prévu que j'organise des concerts dans une salle à Paris. Et c'était d'ailleurs la salle Copernic où aura lieu le concert de Walid Ben Selim demain. Et le directeur de cette synagogue libérale me dit « Mais enfin, tu ne vas pas faire des concerts de jazz dans cette synagogue, c'est une synagogue. Tu n'as qu'à faire des concerts de musique sacrée. » Et donc, je repars du rendez-vous en me disant « Mais il est bizarre, musique sacrée. Moi, je connais le jazz, je connais les musiques du monde, mais je ne connais pas plus que ça la musique sacrée. » Et puis, l'idée a fait sa route et je me suis dit « Tiens, mais en fait, il y a beaucoup d'artistes qui se réapproprient une certaine mystique, de la spiritualité. » Et quelque part, donc, du sacré. Et aussi, je me suis dit, ce serait bien que cette musique, elle parle à des jeunes, à des générations plus jeunes que ce qu'on entend par musique sacrée, des choses très posées, qui pourraient presque sembler ennuyeuses. Bon, et donc, voilà. Et j'ai cette première édition croise du hip-hop, des musiques mystiques, soufis, comme demain soir, des musiques pop comme à la Bellevilloise jeudi dernier où il y avait 500 personnes pour faire la fête, mais toujours avec cette idée de musique un peu spirituelle ou en tout cas avec un message qui va vers l'autre, celui qui est différent. Voilà, c'est ça pour répondre à votre question.
Donc aujourd'hui, on est un peu dans une période de tension, voilà. Ouais. Et je voulais savoir, quand j'ai lu un peu l'intitulé du festival, est-ce que vous considérez que ce festival est politique ?
Alors, quelque part, il l'est, parce que quand on décide de faire jouer des artistes iraniens avec des artistes israéliens, on fait de la politique, mais j'ai envie de dire, entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est pas pour un parti, c'est pour l'idée de maintenir un lien. C'est pour l'idée d'une certaine, c'est une certaine idée de la fraternité. C'est surtout parce que les artistes, eux, ils n'ont pas arrêté de discuter entre eux. C'est aussi parce que moi, dans mon immeuble, dans ma rue, dans mon quartier, les gens continuent à se parler, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, voilés ou non voilés. Tout le monde se parle en vrai, en vrai, en vrai. Donc, il y a le politique et il y a des pays qui se font la guerre et c'est terrifiant. Et vraiment, moi, j'ai de la douleur pour les otages, j'ai de la douleur pour les gens qui souffrent à Gaza, mais j'ai aussi de la douleur pour des gens qui souffrent ailleurs encore dans le monde. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Mais en vrai, nos voisins, nos amis, une partie des gens se divise. Et moi, j'ai trouvé ça dommage que sur un conflit aussi terrifiant soit-il, on se fâche. Donc, pour vous dire, à dire vrai, cette programmation, elle était faite avant la guerre. Avant le 7 octobre, avant le massacre du 7 octobre. Elle était déjà faite. Walid Ben Selim, chanteur soufi marocain, probablement musulman, on va dire. Je ne sais pas, je ne vais pas demander, mais on va dire qu'il avait accepté de jouer au festival avant le 7 octobre. Et là où j'ai trouvé qu'il avait été très fort, c'est qu'après, il n'a pas dit « Écoutez, non, je suis désolée, je ne vais plus pouvoir jouer dans une synagogue. » Non, non, il a maintenu. Parce qu'ils pensent que c'est dans des endroits comme ça qu'il faut maintenir le dialogue. Et moi, je n'ai pas annulé tout le rendez-vous que j'avais pris et le travail qui était fait. J'ai dit non, on maintient les choses. En fait, c'est plus que jamais nécessaire de maintenir un espace où on peut se parler, où on peut croiser des gens différents, des générations différentes. À la Bellevilloise, il y avait des gens de 20 ans, il y en avait plein. Et puis, il y avait un petit coin avec des chaises et des gens de 70 ans et 80 ans qui étaient là dans un coin et qui se sont autant amusés que ceux de 20-25 à danser sur l'Iraz, qui chantaient en farsi, sur de la pop avec des musiciens incroyables ou un DJ set. Enfin, voilà, pareil pour... Et puis, il y a aussi le 16 mai, il y aura un oudiste qui joue avec un artiste qui fait du hip-hop de Cincinnati, Napoléon Maddox. Non, je crois qu'il faut... Bien sûr que la situation est grave, et oui, pour répondre à votre question, je pense que c'est un acte politique de maintenir un espace où on peut dialoguer, où on peut continuer à se taper sur l'épaule et dire, bon, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on reste unis à ce moment-là, à cet endroit-là, et probablement pour tous ceux qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop.
Et justement, vous avez plusieurs partenaires, alors moi, j'avais vu coexister... Il y avait deux associations en rapport avec le judaïsme et une association pour les victimes de la Shoah. Sunside Jazz Club, Digital Village. Quel est le point commun entre ces différentes assos qui soutiennent ce projet?
Alors, d'abord, moi, je suis... D'abord, j'ai une raison très simple, c'est que je dirige un festival de musique qui s'appelle Jazz and Klezmer depuis 20 ans. Donc, il y a des gens qui ont cru en moi pour ce nouveau projet, donc ils m'ont suivi. Typiquement la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Mais par exemple, c'est une fondation qui aide des actions humanitaires pour le Rwanda. C'est une fondation qui aide des actions artistiques pour d'autres communautés que la communauté juive. Ça, en allant voir sur leur site, vous allez voir qu'ils ont un rayonnement qui va bien au-delà de toute obédience. Ils vont vraiment sur des projets dont ils pensent qu'ils ont quelque chose à voir avec la question... justement de la douleur, de la guerre, etc. Ils sont là pour agir sur des endroits de réparation. Coexister, ça nous a semblé important et intéressant parce qu'ils ont un discours rassembleur et parce qu'ils ont ce discours de rassembler juifs, musulmans, chrétiens, mais aussi laïcs, mais aussi athées. Donc on appelle ça co-convictionnel, c'est un mot qui a l'air énorme, mais aujourd'hui on est dans la conviction et être athée c'est aussi une conviction. Et je pense qu'il n'y a pas que les religions dans la vie, il y a aussi la croyance qu'il n'y a rien, et ça c'en est une, donc c'est ce que j'appelle convictionnel. Et puis il y a aussi les guerrières de la paix, parce qu'elles me semblaient importantes, ça fait des années pareil, on entend beaucoup parler d'elles aujourd'hui, mais au départ elles agissaient beaucoup auprès des femmes, et des femmes palestiniennes et des femmes israéliennes. C'est-à-dire qu'elles créaient des rencontres, des endroits de rencontres, de marches de ces femmes qui, quelque part, souffraient des deux côtés ou avaient perdu des enfants des deux côtés et qui se retrouvaient ensemble pour marcher ensemble. Je trouvais que c'était des gens qui, symboliquement, étaient très forts. Digital Village, c'est un lieu super, c'est un endroit dans le... Il y en a plein en France il y en a plein en France, je ne sais plus s'il y en a ailleurs, mais c'est des endroits il y a des activités, il y a un bar, il y a des comédie clubs, il y a des jeux, il y a des conférences, les gens peuvent aller travailler, il y a des espaces de coworking. Voilà, on a essayé d'avoir des partenaires suffisamment ouverts pour montrer aussi notre désir d'ouverture, en fait. Et surtout, là, je suis sur campus, donc je tiens quand même à dire que j'avais vraiment un souci de parler à une génération plus jeune. C'était très important pour moi.
Et j'ai vu que, donc, dans les valeurs du festival, vous considérez qu'il y a l'inattendu, la parité et la transmission. Qu'est-ce que c'est pour vous, ces trois valeurs, et comment vous les articulez ?
Par exemple, pour reprendre le concert de demain soir, donc 7 mai, à la synagogue Copernic, le fait d'avoir un chanteur soufi, donc il chante des poèmes de la mystique d'islam, aussi il va interpréter des poèmes de Mahmoud Darwish, qui est un grand poète palestinien, avec une harpiste de musique classique dans une synagogue. Pour moi, c'est ça l'inattendu. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas, on s'attend à ce que cet artiste joue à l'Institut du Monde Arabe ou qu'il joue, je ne sais pas, dans des salles. Mais là, tout d'un coup, le retrouver dans une synagogue, c'est ce que j'appelle l'inattendu. La parité, c'est parce que dans les musiques, franchement, que ce soit jazz ou toutes les musiques, les femmes, elles sont quand même largement moins représentées que les hommes. Donc, c'était important. Je ne suis pas une militante féministe, mais par contre, je trouve que la place des femmes, c'est bien de la défendre. Et donc, voilà, c'est pour ça que je parlais de parité. Et puis, la troisième, c'était quoi? Je ne sais plus. La parité...
La parité et
l'inattendu
et la transmission, du coup.
Et la transmission, bah, parce que quelque part, ces musiques-là, un peu mystiques, spirituelles, elles nous viennent de très, très loin. Du coup, c'est intéressant quand elles commencent à être mixées avec des musiques, avec du rap, avec de l'électro, avec de la pop, avec des musiques
qu'on par, aurait. Voilà. Pardon ?
Non, oui, bon, merci beaucoup Laurence et Aziza d'avoir été parmi... Désolée, on est un peu en retard. Ouais. Du coup, il y a eu un peu des malentendus, je suis désolée. Donc, merci d'avoir été parmi nous au micro de Helios. Je rappelle que, donc, que vous êtes directrice du festival Sacré Sounds et puis on retient et on encourage nos auditoristes à donc s'y rendre. Et avant d'accueillir Simon...
Il y a des
places
moins chères aussi pour les étudiants à des moments, ouais. Oui.
Donc, il y a des places moins chères, on retient ça, merci.
Oui.
Et avant d'accueillir Simon, Marie pour sa chronique, écoutons Impala d'Adel et Vidéo Club.
Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Si les gens sont tristes, j'en ris, j'oublie que tu existes. C'est fini, sur la piste je twist. Dans la nuit, il y a du monde, je me faufile. Avec style, me regarde dans le miroir, je me noie dans mes yeux. Rigoler des déboires, j'en referai des envieux. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez-vous. Je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là.
C'était Impala d'Adèle Castillon et Vidéo Club.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 19h53, c'est bientôt la fin de cette matinale, mais d'abord c'est l'heure de la chronique de Simon Marie. La semaine dernière, le monde des médias a pris une tournée... Pardon, je ne t'ai même pas dit bonsoir d'abord.
Bonsoir,
bonsoir Simon d'abord.
Tout à fait.
Mais oui, bonsoir. Donc maintenant, je me répète, la semaine dernière, le monde des médias a pris une tournure inquiétante.
Et oui, Émilie, je peux même dire sans la moindre pudeur que cette nouvelle m'a fait froid dans le dos. Des chiffres et des lettres qui s'arrêtent au bout de 52 ans, mais quelle histoire !
Mais non.
Oh là, c'est des soucis, oh là là, c'est vraiment des déconvenus. En septembre, ce sera fini des séquences du style « Alors, présidente de Radio France, consonne ou voyelle ?» Consonne, N, voyelle, A, consonne, Z, voyelle, le I. Quel est le mot le plus long avec N, A, Z et I? Ah, je sais, ça donne Guillaume Meurice au bout d'une pique. Eh oui, parce que l'annonce autour de Guillaume Meurice m'a pas mal frappé ces derniers jours. Alors ça m'a pas fait autant mal qu'une frappe aérienne sur Rafah, mais ça m'a quand même fait un petit coup. Mes pensées depuis jeudi reviennent souvent à Guillaume Meurice après sa suspension pendant 2 semaines de France Inter, dans l'attente d'un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à gna gna gna. On veut le virer pour avoir fait une caricature autorisée par la loi, alors que c'est son métier de faire une caricature autorisée par la loi. On n'est pas une incohérence près hein, en ce moment. Hein. Il y a bien l'opposition au blocage de Sciences Po qui amène la droite et l'extrême droite à reprocher aux bloqueureuses de faire de la politique. Du coup, difficile pour les chroniqueureuses de Radio Associative qui essaient de faire un petit peu d'humour politique comme j'essaie de faire, de ne pas penser à Meurice ces jours-ci. Pourtant, c'est pas l'envie qui me manque. Hein. J'ai bien un neurone qui aurait pu être disposé à parler de la revente de l'ancien fleuron français du numérique Atos. Sauf qu'après, je suis tellement déboussolé que j'ai un autre neurone juste après qui vient en disant « Ah bah d'accord Athos, mais qu'en est-il de D'Artagnan, Porthos et Aramis ?» Sauf si vous n'avez pas lu Les Trois Mousquetaires, vous comprenez pas. Sauf que le problème, c'est que juste après que j'ai dit ça, il y a un troisième neurone qui se réveille et qui dit « Ah bah la belle affaire, mais Aramis, vous parlez de quel Aramis ?» Aramis France, Aramis Bretagne, Aramis Poitou. Et là, et j'aurais même pas eu le temps de répondre à la question qu'un quatrième neurone aurait pris la parole et lui, il aurait dit Miss Poitou, pas là, mais c'est pas là, mais Miss Poitou, pas là, mais c'est pas... Mais et qui dit Vianney dit un cinquième neurone qui dit « Eh dis donc, Vianney, ce serait pas celui dont l'ami d'enfance est un nazi ?» Qui dit ami d'enfance nazi et qu'on ne renie pas, surtout quand on en parle dans les médias, dit « Eh ben comme quoi ça empêche pas de participer à Fort Boyard ?» Et qui dit Fort Boyard dit un septième neurone qui dit « Eh, 7 comme les 7 clés qui permettent le déverrouillage de la salle du trésor. » Chouette alors, ça veut dire qu'on n'aura pas à faire de sacrifice devant la juge du fort. Et qui dit juge du fort dit Delphine Vespizer, Miss France 2012, interprète du personnage. Et tiens, Delphine Vespizer qui soutient de manière complètement affichée dans Touche pas à mon poste Marine Le Pen en 2022 et plus récemment Jordan Bardella pour les européennes. Et sauf que qui dit touche pas à mon poste dit qu'elle le pense peut-être pas vu qu'Anouna scripte tous les débats, mais dans tous les cas c'est le mal est fait pour soutenir ce parti dont les statuts ont été rédigés par un nazi.
Et
en
non.
Revanche, qui dit nazi ne dit pas forcément avoir un... Pourquoi se priver d'avoir une conversation sur Guillaume Meurice au final? Tout ce qui se passe autour de Meurice, ça ébranle toute l'idée me concernant que je pouvais me faire d'un humoriste politique, de sa place dans la société et de comment moi je me définis par rapport à tout ça. Parce que les deux mots là, humour et politique, pour moi c'est très lié. Je fais partie d'une des dernières générations dont la conscience politique s'est forgée, notamment grâce au Guignol. Je me suis intéressé à la politique par la satire, de la même manière que je me suis ouvert à la possibilité de faire de l'humour par la politique, ce qui fait qu'il y a une partie de moi, encore aujourd'hui, qui se dit que l'un ne va pas sans l'autre. Parmi ces trucs que m'ont apporté les Guignols, il y a des manières de lire la société. Il y a une époque, c'est une époque où on avait encore certaines idées du débat public, même certaines digues dans le débat public, notamment contre l'extrême droite, la même qui domine aujourd'hui le champ médiatique jusqu'à amener le service public à suspendre un humoriste pour avoir fait une blague un peu outrancière. Alors qu'à côté de ça, pas un mot du service public pour défendre Nassira El Mohadem des attaques racistes de la même extrême droite. Mais bon, ça, on passe à côté, hein, évidemment. Et pour revenir à Meurice, ce qui me fait bizarre avec sa suspension, c'est que quand les Guignols se sont arrêtés, je me suis vite tourné vers lui après le passage d'une chronique sur Internet, ensuite vers toute l'équipe de Charline Vanhoenacker pour avoir un peu d'humour contestataire dans ce bas monde, et ensuite même pour m'ouvrir au médium radiophonique jusqu'à me sentir l'envie de prendre le micro, ce que j'ai commencé à faire ici il y a 6 ans. Et autant que ce genre d'espace soit supprimé ou réduit, je sais que avec l'arrêt des Guignols que ça peut arriver, mais d'habitude, derrière l'idéologie pousse à l'arrêt de ce genre de programme, il y a des excuses d'audience, quoi, il y a des trucs à la con. Sauf que là, toutes ces excuses qui font qu'on les muselle qu'à moitié, un peu comme la bande de Charline Vanhoenacker qui passe de quotidienne à hebdo, ou même ma chronique qui dérange dans la matinale qui passe d'hebdo à bimensuel, et ben voilà, je dérange. En tout cas, le même principe d'humour politique n'est pas remis en question. Là, c'est carrément une blague qui choque, qui a un motif de licenciement. Les réacs ne se cachent même plus. Autant j'ai la chance de ne pas être sujet au licenciement ici, à défaut d'être payé, autant j'ai du mal à me considérer comme humoriste parce que je fais pas de scène, ce qui peut être con, mais l'humour politique, c'est un peu ma boussole ces dernières années, avec les blagues de caca, évidemment. Ce qui fait que, Meurice viré ou non, je vais continuer à essayer de faire rire avec l'actualité, mais depuis jeudi, j'ai peur de plus savoir où est mon or.
Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci beaucoup à Ashraf, Chérine et Laurence Aziza d'avoir été parmi nous ce soir. Merci aussi à Manon, Sylvie et Elios d'avoir assuré les interviews, Simon et Lamine pour leur chronique et Perrine pour les moyens techniques. Et pour finir, merci à vous, chers auditeurs. Restez avec nous sur Radio Campus Paris et à demain.